Il est bon de nous tenir dans la présence du Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternels à sa droite, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit aussi qu'il nous remplira de joie par sa présence. Rien ne peut remplacer la joie que nous avons dans la présence de Dieu. Alléluia! Les joies de ce monde sont passagères, mais la joie qui vient du ciel, de notre Sauveur, demeure toujours. Jésus lui-même a dit, « Je vous donne ma joie, ma paix, et nul ne vous ravira cette joie et cette paix. » Alléluia! Personne ne peut nous ravir cette joie, parce qu'elle nous vient du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Elle nous vient de Dieu même. Puisse le Seigneur nous accorder toujours plus cette bénédiction. Je crois que le désir de chaque chrétien converti à Jésus-Christ et qu'il a accepté comme son sauveur et comme son Seigneur dans sa vie, le désir de chaque chrétien est de plaire à son sauveur, n'est-ce pas vrai? Nous désirons tous plaire à notre Dieu et nous nous sommes certainement souvent posé la question, comment marcher devant le Seigneur d'une manière qui lui plaise? Comment marcher devant le Seigneur? Dans l'Ancien Testament, il y a un patriarche qui, au sujet duquel il nous est dit que Hénoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Et le Seigneur le prit. Hénoch marcha avec Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est aussi que nous marchions avec lui. Comment marcher avec lui est d'une manière qui lui soit agréable. C'est là le désir, je suis sûr, de ton cœur, n'est-ce pas vrai ? Tout vrai enfant de Dieu a ce désir profond. Et nous allons voir comment marcher d'une manière agréable devant Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne des exhortations précises, nous montrant comment nous devons marcher d'une manière digne devant le Seigneur. Et en lisant l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons que à 5 endroits, il nous est parlé de marcher. L'apôtre Paul nous dit de marcher, 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 marcher. Et chaque fois, bien sûr, il y a une pensée précise qui s'attache au verbe marcher. Alors, à 5 reprises, l'apôtre nous dit de marcher et nous allons voir ce que cela signifie. La première mention que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 1er, nous allons voir là la première mention de ce verbe « marcher » et le contexte qui se rapporte à cette pensée-là. Et nous verrons comment Dieu nous demande de marcher. Éphésiens 4, verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. » Alors nous voyons là une première pensée. Je vous exhorte donc. Donc l'apôtre exhorte les chrétiens en disant, je vous demande instamment, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que les 3 premiers chapitres, vous pouvez les lire à la maison, ces 3 premiers chapitres sont la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Paul de l'Église de Jésus-Christ, du salut merveilleux qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Et c'est une révélation extraordinaire. Seul l'apôtre Paul a eu cette révélation de l'Église. Il nous montre en somme qui nous étions et qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit maintenant, je vous exhorte, je vous demande instamment, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et voilà la première marche que Dieu nous demande pour lui être agréable, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. D'une manière digne. Et vous savez, juste un peu avant, dans Éphésiens 2, il nous dit que autrefois nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous étions comme des fils de la rébellion, nous étions des enfants de colère. Mais Dieu a manifesté son amour envers nous, il nous a aimés d'un grand amour et il nous a sauvés par grâce. Et ensuite il est dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Alléluia. C'est là une pensée extraordinaire. Autrefois, nous étions étrangers. Autrefois, nous étions séparés de Dieu. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Autrefois, nous étions enfants de colère et qui méritions le jugement de Dieu. Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils bien-aimé afin que lui porte le jugement qui devait tomber sur nous. Alléluia! La parole de Dieu dit, c'est le prophète Ésaïe, plus de 700 ans à l'avance, disait, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il portait ton châtiment, il portait mon châtiment. Nous étions enfants de colère, nous étions des fils de la rébellion. Nous ne faisions que ce que nous voulions. Nous étions des rebelles, des endurcis, ennemis de Dieu par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Et la sainteté et la justice de Dieu demandaient que nous soyons punis. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Et l'apôtre dit bien ici, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc autrefois, nous étions païens, pécheurs, perdus, sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Mais maintenant, est séparé de Dieu, car le péché sépare l'homme de Dieu. Amen. Nous ne devons jamais oublier cela. Si nous avons communion avec Dieu maintenant, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cause de son sang versé, à cause de son sang, à cause de ses souffrances, à cause de son sacrifice parfait, nous pouvons maintenant avoir la liberté de nous approcher du Dieu trois fois saint. S'il n'y avait pas cela, mes amis, écoutez-moi bien, personne ne peut s'approcher du Dieu trois fois saint. Personne ne peut avoir communion avec ce Dieu trois fois saint. Si nous pouvons jouir maintenant de sa présence, si nous pouvons jouir maintenant de son pardon, nous ne devons jamais l'oublier, c'est à cause de son sang. C'est à cause de la croix de Jésus-Christ, là où il y a 2000 ans, il a donné sa vie. Il a été le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il fallait qu'il donne sa vie, car nous étions tous pécheurs. Et nous méritions la condamnation, mais il fallait qu'un juste, mort pour nous injuste, il fallait que l'innocent qui est Jésus, mort pour nous coupables, il fallait que lui, le saint et le pur, meure pour nous pécheurs et souillés. Et c'est ainsi qu'à cause de son sacrifice parfait à la croix, Jésus a pleinement payé notre dette devant Dieu, car nous avions tous une grande dette devant Dieu. À cause de nos nombreux péchés, nous avons une dette immense devant Dieu. Et cette dette, nous ne pouvons pas la payer par notre argent, par nos prières, par notre religion, par nos souffrances, par nos bonnes œuvres. Nul ne sera justifié devant Dieu par les bonnes œuvres qu'il peut faire. Personne. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus, en mourant sur la croix, a pleinement payé notre dette. Et lorsqu'il s'est écrié, « Tout est accompli !» Vous savez ce que le mot « tout est accompli » veut dire ? Tout est payé. J'ai payé ta dette. Je suis mort à ta place. J'ai porté le jugement de Dieu qui était sur toi. Je l'ai subi moi-même, afin que toi, si tu crois en moi, et si tu te repens de tes péchés, alors je peux te donner aussi le pardon. Mon sang peut purifier ton cœur mauvais. Je pourrais venir faire ma demeure en toi. Et tu seras sauvé. Et tu pourras t'approcher de moi, du Dieu trois fois saint, par Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Et nous devons maintenant, une fois que nous avons compris ces choses, savoir que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons maintenant glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, Dieu a fait de grandes choses pour vous. Et plus loin, il dit même, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia!
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Désormais, une fois que Christ est devenu notre Sauveur, notre Seigneur, une nouvelle vie commence. Nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions autrefois. Et l'apôtre ainsi exhorte, je vous exhorte maintenant, il faut marcher d'une manière digne de votre vocation céleste. Nous sommes maintenant non plus des étrangers, non plus des ennemis, non plus des pécheurs perdus loin de lui, mais des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia! Par grâce! Quelle vocation! Nous qui étions destinés à être perdus loin de Dieu, Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes pour régner avec lui éternellement. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu. Peu de chrétiens réalisent cette vocation céleste qu'ils ont. Tout a changé lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie. C'est pourquoi Paul exhorte maintenant, je vous exhorte, à cause de ce que tout ce que Jésus a fait pour vous, c'est vrai, vous étiez enfants de colère, fils de la rébellion, étrangers, séparés de Dieu à cause de votre péché, mais maintenant, par le sang de Jésus, ce sang a purifié votre péché, la communion a été rétablie. Dieu vous appelle et a fait de vous ses enfants. Alléluia! Nous sommes fils du roi, filles du roi des rois. Et c'est pourquoi nous devons vivre maintenant d'une manière digne de cet appel et de cette vocation. Car si nous ne marchons pas d'une manière qui glorifie le Seigneur, alors les gens mépriseront ou rejetteront le Seigneur à cause de notre mauvais témoignage. Quelle responsabilité sur nous maintenant, nous qui sommes sauvés par grâce. Dieu nous dit maintenant, attention, tu dois veiller à honorer le nom de Dieu dans ta vie. Tu dois veiller à honorer le nom du Seigneur dans ta vie. Tu portes le nom de Jésus. Tu dois veiller maintenant à glorifier Dieu dans ta vie. Et être un témoin qui le glorifie, et non pas jouir égoïstement de ton salut, sans faire attention à ta nouvelle vie. Certains disent qu'ils ont une nouvelle vie, mais leur vie n'est pas changée. Mais quand Jésus-Christ vient dans une vie, il transforme tout. Alléluia! La parole de Dieu dit, si quelqu'un accepte Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quand son sang a purifié nos péchés, désormais, on a la haine du péché. On fuit loin du péché et on court loin de Jésus, près de Jésus, près de sa parole, près de sa sainteté, près de sa lumière, près de sa vérité. Alléluia! Chers amis, si nous voulons marcher d'une manière qui est agréable à Dieu, Dieu nous a adressé une sainte vocation, celui de le représenter ici-bas. Amen. Celui de le refléter ici-bas, désormais. Est-ce que ta vie reflète le Seigneur Jésus? Est-ce que ta vie reflète la beauté de Jésus? Est-ce que ta vie reflète la sainteté de Jésus? Est-ce que ta vie est un reflet de Jésus? C'est ce que l'apôtre veut dire. Marchez maintenant d'une manière digne de cette vocation céleste. Alléluia! Nous ne devons plus jouir égoïstement de ce salut, mais nous devons veiller à ce que notre vie, nos paroles, notre témoignage, partout où nous sommes, glorifie le Seigneur. Alléluia! Voilà comment nous devons marcher si nous voulons plaire à Dieu. Pas seulement le dimanche matin à l'église, nous devons plaire à Dieu, mais nous devons plaire au Seigneur et chercher à l'honorer dans notre lieu de travail, à la maison, partout où nous sommes, même lorsque nous sommes seuls et que personne ne nous voit, tu dois réaliser une chose, Dieu te voit. Tu es constamment dans la présence de Dieu. Que de gens font des bêtises et des mauvaises choses lorsque personne ne les voit, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu les voit. Et si le chrétien réalise qu'il est constamment, qu'il marche constamment sous le regard de Dieu, il veillera à ce qu'il dit, à ce qu'il regarde, à ce qu'il fait, à ce qu'il entend. Désormais, il est une nouvelle créature. Il représente le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia! Si nous avons un mauvais témoignage, alors on rejettera le Seigneur. On sera un scandale pour le Seigneur. Mais si nous rendons un bon témoignage, le nom de notre Seigneur sera glorifié. Des âmes se tourneront vers lui en voyant la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia! Marchez d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Quand Jésus vient dans un cœur, il nous donne une dignité royale. Alléluia. Une dignité. Nous ne vivons plus comme avant. Il y a du sang royal en nous. Alléluia. Nous sommes les enfants du roi. Dites-moi un petit peu, avez-vous vu les enfants de roi vivre un peu n'importe comment? Des enfants de roi ont tout un protocole, vous êtes d'accord avec moi? Les rois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Si un fils ou une fille de roi fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, qu'est-ce qui se passe? C'est le roi ou la reine qui est déshonoré. Amen. Et c'est quelque chose de tragique. Mais on apprend à cet enfant, tu es fils de roi, tu dois vivre maintenant comme tel. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Tu dois vivre au niveau de ton appel et de ta vocation. Alléluia! Lorsque nous venons à Jésus-Christ, non seulement il pardonne notre péché, mais il nous donne cette dignité royale. Alléluia! Il nous a rendus dignes. Quel privilège, quel honneur, gens de la maison de Dieu. Nous le servirons, nous verrons sa face, nous nous courberons devant lui et nous l'aimerons, bénirons éternellement. Nous qui étions destinés à la perdition éternelle, il nous a appelés pour le servir, l'aimer, le bénir. Alléluia. Amen. Un deuxième passage où il est dit que nous devons marcher au chapitre 4 toujours et au verset 17. Voici ce que l'apôtre Paul dit encore. Voici ce que je vous dis. Et regardez là, il est sérieux. Voyez-vous ce qu'il dit? Voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voyez-vous? Il est sérieux là, l'apôtre Paul. Il est sérieux. Voici ce que je vous dis. Est-ce que je vous déclare dans le Seigneur? Comme pour dire, c'est le Seigneur qui veut cela. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors ici, si nous voulons plaire à Dieu, il y a une deuxième vérité. Nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est clair et net, n'est-ce pas? Et alors après, il le dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui entend Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Alors voyez ce qu'il est dit ici, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comment ne pas marcher comme les païens maintenant? Il nous faut avoir une intelligence renouvelée. Nous ne devons plus penser comme on pensait autrefois en tant que païens. Un serviteur de Dieu a dit un jour, certains chrétiens ont un cœur tout neuf, mais une vieille tête. Un cœur tout neuf, mais une vieille tête. Ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence, dans l'esprit de leur intelligence. Ils sont sauvés, mais ils raisonnent encore comme avant. Ils raisonnent encore comme avant. Ils pensent encore comme avant. Leur façon de penser n'a pas changé. Est-ce que l'apôtre veut dire ici, maintenant que tu es au Seigneur, ta façon de penser doit changer? Tu ne dois plus penser comme le monde. Et comment changer sa façon de penser? Eh bien, en nous nourrissant de la parole de Dieu. Alléluia! En changeant nos pensées par les pensées de Dieu. C'est ainsi que tu changeras ta façon de penser. Car tu vivras comme tu penses. Si tes pensées sont mauvaises, ta vie sera mauvaise. Personne ne peut dire ici, moi j'ai des pensées mauvaises, mais je vis comme il faut. Ça n'existe pas. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Donc tu dois purifier la source même de tes pensées. Et pour cela, tu dois lire, méditer la parole de Dieu est la source de notre renouvellement. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. » Beaucoup se demandent, « Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce que Dieu pense exactement. » Mon ami, tu peux le savoir, ce que Dieu pense est dans sa parole, dans la Bible. Alléluia! Plus tu la lis, plus tu la médites et plus tu la mets en pratique, ton intelligence sera renouvelée. Ça se fera instinctivement. Et instinctivement, tu penseras différemment. Et en pensant différemment, tu parleras différemment. Tu agiras différemment. Tu regarderas différemment. Tu te comporteras différemment. Alléluia! Voilà ce que Paul voulait dire aux Éphésiens. Il leur dit, je vous en conjure maintenant. Je vous le dis et je vous déclare dans le Seigneur de ne plus marcher comme les païens qui ont l'intelligence obscurcie, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la vérité. Mais Jésus a dit lui-même, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia! Comment ne pas marcher comme les païens? Eh bien, en changeant sa façon de penser. Comment ne pas marcher comme les païens? Eh bien, en changeant sa façon de penser. Tu dois maintenant être renouvelé dans ta pensée, dans ta façon de voir les choses. C'est très important, cela prend du temps, mais tu dois le faire. Que de chrétiens sont dans des confusions, dans des impasses, ils ne savent pas s'en sortir. Mais tu peux, il y a la réponse, tu peux t'en sortir. Il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence, que tu mettes dans tes pensées les pensées de Dieu, que tu nourrisses cette parole. Et alors tu connaîtras sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Mais si tu ne prends pas le temps de nourrir ton esprit, ta parole, ta pensée, ton intelligence. Si tu ne prends pas le temps pour cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois le faire. Tu dois prendre le temps de renouveler l'esprit de ton intelligence. Voyez, donc ta façon de penser, tes motivations, tes pensées secrètes, tu dois changer cela. Tu ne dois pas dire « Ah, oh, mais tout le monde fait ça. » « Ah, mais j'ai entendu qu'on fait ça. » Non, ça c'est le monde. Ce sont les païens qui sont étrangers à la pensée de Dieu. Maintenant, tu es Jean de la maison de Dieu. Tu dois te nourrir de cette sainte parole. Alléluia. Et cette parole t'éclairera, te conduira, te gardera, te consolera. Cette parole est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes amis, que de chrétiens sont dans la confusion uniquement parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Ils pensent encore comme avant. Quand vous discutez un petit peu avec eux, vous vous demandez si ce sont des chrétiens. Vous vous demandez sincèrement. Ils se comportent. Quelle tragédie! Le nom de Dieu est déshonoré. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Et comment le faire? En changeant notre façon de penser. Est-ce que ta façon de penser a changé? Ou est-ce que tu penses toujours comme avant? Ça, tu dois justement, pour que ce changement se fasse en profondeur, la parole de Dieu doit renouveler ta façon de penser. Et plus tu te nourris de la parole, plus ton intelligence sera transformée. Amen. Et elle aura les pensées de Dieu, les paroles de Dieu. Et plus tu as les paroles, les pensées de Dieu en toi, plus tu auras la joie, plus tu auras la paix, et plus il y aura d'harmonie en toi. Amen. Car les pensées de Dieu sont paix, harmonie, joie, vérité, lumière, sainteté. Alléluia. Allons plus loin. Troisième façon de marcher qui glorifie Dieu, c'est au chapitre 5, voici ce que l'apôtre dit maintenant. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles après? Et marchez. Ah, mais marchez comment maintenant? Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous, ici, il y a une autre dimension dans notre marche chrétienne. D'abord, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Ensuite, ne pas marcher comme des païens. Et maintenant, marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Voilà maintenant un troisième aspect d'une vie chrétienne victorieuse et qui plaît à Dieu, c'est de marcher dans la charité. Et la charité ici veut dire, à l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est avant tout un sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a donné le meilleur de lui-même. Aimer, c'est donner, mais c'est aussi se donner. Amen. Et voilà maintenant ce que Dieu veut que nous apprenions. Nous devons être les imitateurs de Dieu. Penser comme la parole de Dieu, mais aussi penser comme Dieu, comme Jésus. Il est notre exemple. Comment nous a-t-il aimés? En nous bénissant comme cela, oh vous savez, oh si vous saviez comme je vous aime beaucoup. Est-ce qu'il a dit cela du haut du ciel, Jésus? Oh, je vous aime beaucoup, vous savez, je vous aime beaucoup. Non, non, il ne nous a pas aimés en parole seulement, mais en action et en vérité. Et Dieu nous demande maintenant de marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même pour nous. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons renoncer à nous-mêmes pour nous donner à Dieu et servir nos frères et nos sœurs. Amen. Nous devons nous oublier nous-mêmes. Le plus grand problème dans le monde et dans l'Église, c'est l'égoïsme. Dans le monde, nous étions égoïstes et on voulait qu'on ne pensait qu'à nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? On ne vit que pour soi, c'est ça le monde. Et c'est pourquoi le monde est malheureux. Tant que vous vivez pour vous-même, vous serez toujours malheureux. Et c'est cela, la nature même du péché, c'est vivre pour soi-même. Le péché, c'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et tant que quelqu'un vit pour lui-même, il est malheureux. Et il est séparé de Dieu. Il ne peut pas être heureux. Ça, c'était dans le monde. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, Il ne faut plus vivre comme cela. Voyez-vous, il faut être renouvelé dans notre pensée. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme cela. Ils sont toujours égoïstes. Vous devez toujours leur tourner autour d'eux. Vous devez toujours être là pour leur faire leurs petits caprices. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Seigneur, bénis-moi, aide-moi, bénis-moi, aide-moi, bénis-moi, aide-moi, bénis-moi, aide-moi. C'est tout. Ils ne sont pas là pour penser aux autres, pour se sacrifier, se renoncer à eux-mêmes. Rien. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et qu'à leur famille. C'est tout. Il n'y a pas de changement. Autrefois, ils réclamaient du monde des choses pour leur propre bénédiction. Maintenant, c'est de Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui doit les bénir. Mais le centre n'a pas changé. Le centre, c'est eux-mêmes. Et l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Le centre doit changer. Et pour beaucoup de chrétiens, le centre n'a pas changé. Le centre est toujours le moi. Je fais ce que je veux. Tu n'as rien à me dire de toute façon. Tu n'as rien à me dire, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est cela le péché. C'est faire ce que je veux. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Je dois faire ce que Jésus veut. Et si tu te dis chrétien, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Jésus veut. Amen. Amen. Ça, c'est important. Si un chrétien dit, moi, je fais ce que je veux, ce chrétien n'a rien compris. Il pense encore comme un païen. Son intelligence est encore obscurcie. Il est ignorant. Il est sauvé, mais c'est un bébé spirituel qui fait plus de mal que de bien autour de lui. Maintenant que nous sommes gens de la maison de Dieu, maintenant que nous connaissons le vrai Dieu par Jésus-Christ, alors notre façon d'aimer doit changer. Notre façon de vivre maintenant. Tout à l'heure, c'était notre façon de penser. Et maintenant, c'est notre façon de vivre, d'agir. Je ne veux plus faire ce que je veux. Je veux faire ce que tu veux. Me voici, Seigneur, je m'oublie moi-même. L'égoïsme doit être brisé à la racine, coupé à la racine. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, vous savez, la première qualification de l'apostasie et des temps difficiles qui arrivent, quand il énumère toutes ces choses, il dit dans les derniers temps, il y aura des temps périlleux. Les hommes seront égoïstes. Voilà, amis de l'argent après. Mais la première qualification, avez-vous remarqué, ils seront égoïstes. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Aucun esprit de sacrifice. Pourquoi est-ce que nous pouvons et nous devons nous sacrifier maintenant? Non pas pour être sauvés, vous comprenez bien, mais parce que nous sommes sauvés. Amen. On ne fait pas des sacrifices maintenant pour être sauvés. Non, c'est Jésus qui a accompli le parfait sacrifice. Mais parce que nous sommes sauvés par grâce, alors maintenant, comme lui, nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous oublier nous-mêmes. Ne pas chercher à faire nos quatre volontés, mais à chercher à bénir le Seigneur et à être une bénédiction aux autres. Alléluia! Le chrétien qui marche d'une manière qui est agréable à Dieu, c'est celui qui marche dans la charité. À l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même. Voyez-vous, lui-même, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire lui-même, personne ne l'a forcé, c'était volontaire. Volontaire. L'amour se sacrifie, mais l'amour est volontaire. Amen. Quand on doit toujours vous dire ce que vous devez faire, il n'y a pas beaucoup d'amour. Alors, t'as pas encore fait ça? Certains ne font rien si vous leur dites rien. Tout est force. Ah, bon, d'accord. Bon, alors tu sais pas que tu devais balayer la salle? Ah oui, d'accord, j'ai oublié. Balayer la salle. Tout ce que vous faites comme cela en rechonnant n'a aucune valeur devant Dieu. Aucune valeur. Il s'est livré lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, c'est important. Volontairement. C'est lui qui a dit à son père, « Père, me voici. Les hommes se perdent et vont à la perdition éternelle. Me voici. Me voici pour donner ma vie afin qu'ils soient sauvés et qu'ils n'aillent pas en enfer. » Volontairement. L'amour, c'est quelque chose de volontaire. Vous-même, de vous-même, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous n'attendez plus qu'on vous demande. C'est vous qui venez, de vous-même. Lui-même, de vous-même, de vous-même, de vous-même. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle bénédiction! Amen. Mais malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. Au lieu d'aller vers les gens, tout le monde attend que les autres viennent. Et on attend. Personne qui vient ici. Personne qui vient me dire une bonne parole. Personne qui vient me bénir. Personne, personne. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Il n'y a personne qui vient. Et toi, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? T'as pas pensé à ça? Ils ont la révélation que c'est toujours les autres qui doivent venir. Le Seigneur m'a montré que c'est les autres qui doivent venir. Ah bon? Et t'as pas la révélation que toi, premièrement, tu dois y aller? Ah, ils n'ont jamais cette révélation-là. C'est toujours les autres qui doivent faire le premier pas. Mais eux, ils n'ont pas la révélation qu'ils doivent faire le premier pas. Et l'amour, justement, n'attend pas les autres. Amen. L'amour agit spontanément, volontairement. L'amour voit un besoin, voit une souffrance, et n'attend pas qu'on dise, n'attend pas une permission. Le cœur est là. Voilà, je viens. Je veux prier pour toi. Je veux t'encourager. Je veux te bénir. L'amour, marcher dans la charité. Vivre pour soi-même. Attendre que toujours les autres fassent le premier pas. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les païens qui agissent comme ça. N'est-ce pas vrai? Mais dans l'Église, Jésus-Christ nous a donné un autre exemple. Marcher dans la charité à l'exemple de Jésus qui s'est livré lui-même. C'est spontanément que nous aimons. C'est spontanément que nous chantons. C'est spontanément que nous faisons ce que Dieu nous demande, volontairement, volontairement. Il n'y a personne pour me pousser. Il y a des chrétiens, si vous leur demandez pas 50 fois la même chose, ils ne feront jamais rien. 50 fois. Et après, vous n'osez même plus rien leur demander. Parce que quand vous leur demandez quelque chose, quoi, et les autres? Et les autres? Toujours moi, hein, toujours toi. Tu n'as jamais fait quelque chose et tu dis toujours toi. Et moi? Et les autres? Regardez-moi ça. Ça, c'est les païens qui agissent comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne serait pas étonné d'une telle attitude dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? On ne serait pas étonné. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais avec le chrétien, dans l'Église, ça devrait être tout le contraire. Voici, voilà, je suis là, d'accord, allez, volontairement, cet esprit, c'est ça l'amour. Prêt à se sacrifier, à passer des moments difficiles pour le Seigneur et pour les autres. Amen. Le sacrifice est la respiration de l'amour. J'avais lu cette pensée une fois, ça m'est toujours resté. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de véritable amour. Ne l'oubliez jamais. Si vous aimez seulement quand on vous aime, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous aimez quand on vous aime, qu'est-ce que vous faites de plus? Les païens, Jésus lui-même l'a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les païens font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. C'est dans le monde. Et Jésus a dit à ses disciples, mais si vous faites vous la même chose, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens font comme cela. Alors Jésus veut dire à ses disciples, eh bien, faites du bien sans rien attendre des autres. Donnez-vous sans rien attendre des autres. N'attends rien, n'attends rien. Fais-le pour moi, pour ton Seigneur. Amen. Fais-le comme pour lui, par amour, pour lui et pour les hommes. Fais-le par amour, n'attends rien. C'est la clé d'une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Si nous comprenons cela et le mettons en pratique, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. C'est impossible. Vous devez couper cette racine de l'égoïsme. Et vous êtes imprégné de cet esprit de renoncement, de sacrifice. Car Jésus lui-même a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voyez-vous, ça c'est céleste. Donner, c'est divin. Recevoir, c'est humain. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pour beaucoup, c'est plutôt l'inverse. Ils lisent la Bible, ce verset à l'envers. Pour moi, j'ai plus de joie à recevoir qu'à donner. Si tu as plus de joie à recevoir qu'à donner, tu penses encore comme les païens. Ton cœur est né de nouveau, mais ta tête est encore païenne. Tu penses encore comme un païen. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fais-le, fais-le jusqu'à ce que tu expérimentes cette joie. Amen. Fais-le. Parce que si Jésus l'a dit, c'est vrai. Amen. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Si Jésus l'a dit, c'est vrai. C'est pas encore vrai pour toi, ben mets-le en pratique. Jusqu'à ce que ce soit vrai. Et quand tu le sauras, tu ne t'arrêteras plus. Tu inspireras les autres. Ta joie, ton rayonnement montrera que tu as compris quelque chose. Alléluia. Marcher dans la charité. On va un peu plus loin. Ah, chapitre 5, verset 8, cette fois. Une autre façon de marcher qui plaît au Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Ah, marcher. Voilà. Voilà, marcher. Et mais comment cette fois ? Tout à l'heure, c'était dans la charité. Vous voyez, il y a quelque chose de plus maintenant. Marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors maintenant, quatrièmement, comment plaire à Dieu en marchant dans la lumière, comme des enfants de lumière. Et les fruits de la lumière, c'est la bonté. Vous savez, la bonté, j'avais lu une fois, la bonté, bon, c'est une forme d'amour, n'est-ce pas, la bonté. Mais la bonté, c'est l'amour manifesté dans les petites choses. Un jour, j'avais lu cette petite histoire, ça m'avait touché. C'était un petit garçon, il s'était fait mal au doigt. Et puis alors, ça lui faisait mal. Et il court vers sa mère, il dit « Maman, j'ai mal. Oui, ça va, oui, ça va, c'est rien. Mais non, maman, j'ai mal. Ça va passer. Non, maman, c'est pas ça que j'attends de toi. J'ai mal. Ça va passer, tu vas pas mourir. Ça va passer. Et il continuait, le gamin. J'ai mal. Mais qu'est-ce que... Alors finalement, la maman lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire autre chose, ça va passer, tu vas grandir, c'est rien. Le petit garçon, vous savez ce qu'il a dit? Maman, tu aurais au moins pu me dire, oh... Oui, il avait mal. Au moins prendre le doigt et dire « Oh !» Ça aurait été suffisant. Ça l'aurait calmé. Mais le fait de dire « Oh, c'est rien, ça va passer !» Vous voyez, ça ne marche pas, ça. Vous voyez, c'est cette manifestation de l'amour dans les petites choses. « Oh !» Ça aurait suffi à l'enfant. C'est tout ce qu'il voulait. Mais nous, on dit « Marcher dans la lumière en toutes sortes de bontés, c'est ça. C'est l'amour pratiqué dans les petites choses. Parce que nous, on aurait tendance à pratiquer l'amour dans les grandes choses, où il faut qu'on nous voie et qu'on nous prenne en photo. Parce que si on ne nous voit pas et qu'on ne nous prend pas en photo, ça ne marche pas. C'est pas intéressant. Personne ne va le savoir. Bien. Moi, je ne vais pas me fatiguer pour ça, pour rien du tout. Hein. Ah, tu ne vas pas te fatiguer pour rien du tout, hein. Qu'est-ce que tu révèles par là? Moi, il faut que ça se voit. Doucement. Non. Ah, où tu vas par là? Où tu veux aller? Marcher comme des enfants de lumière. Désormais, il n'y a plus de choses qui sont petites. Tout est grand. Parce que nous servons un grand Dieu. Amen. Et j'avais lu, tout est grand. Nous devons tout faire d'une manière qui soit agréable à Dieu. Un jour, j'ai lu cette pensée, je vous la donne. Nous devons faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Et les choses extraordinaires, nous devons les faire d'une manière ordinaire. C'est pas mal, ça, vous ne trouvez pas? Ça, c'est marcher comme des enfants de lumière. Je reviens là-dessus. Nous devons faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que les moindres petites choses, nous ne devons pas les faire avec négligence, en disant « Oh, c'est rien, allez, ça passera !» Non cette... « Maman, je marche !» Ouh. Voyez, la chose ordinaire, vous la faites, vous ne négligez rien. Les petites choses, vous les faites comme si c'était de grandes choses. Et les grandes choses que Dieu vous demande, vous devez les faire comme si c'était de petites choses, pour que votre cœur reste humble et que ça ne vous monte pas à la tête. Parce que pour beaucoup aussi, ça leur monte à la tête, justement. Dès qu'ils font quelque chose d'un peu grand, pof, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un déclic qui se... À partir de ce jour-là, ça y est, on ne peut plus les regarder. Ou alors, vous savez comment on doit les regarder? Comme ça, on doit les regarder. Eux, ils vous regardent toujours comme ça. Pauvre type, pauvre. Pauvre. Qu'est-ce que tu es, toi? Pas grand-chose. Moi, maintenant, regarde ce que je suis. Catastrophe. Nous devons faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Quand il n'y a pas de petites choses quand nous servons un grand Dieu. Tout est grand quand nous travaillons pour un grand Dieu. Amen. Rien n'est petit. Et les choses extraordinaires, d'une manière ordinaire, ça nous gardera humbles. Et nous donnerons toujours toute la gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous marcherons dans la lumière. Et je termine, je vous en ai donné 5. Au verset 15, toujours chapitre 5, je termine maintenant. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Alors ici, dans la version anglaise et originale, c'est au lieu de vous conduire, c'est « prenez garde de marcher ». C'est le verbe « marcher » qui est là, dans le texte original, et dans les versions anglaises aussi. « De marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors ici, nous devons marcher avec sagesse, avec prudence, car les jours sont mauvais. Nous devons marcher avec discernement. Nous devons faire attention où nous mettons les pieds, où nous regardons, ce que nous entendons. Nous devons veiller à cela. C'est cela, c'est marcher dans la sagesse, avec circonspection. Je lisais une petite méditation qui disait ceci. Avez-vous déjà vu un chat qui marche sur un mur? Vous savez, les murs autrefois, je ne sais pas si maintenant ça se fait, où on mettait des verres, vous savez, pour clôturer une maison ou autre. Il y avait des grands murs avec des verres, telle sorte que les voleurs n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Mais avez-vous vu un chat justement marcher au-dessus de ce mur, entre les verres? Vous voyez le chat? D'abord, la patte ici, la patte juste là entre les deux où il n'y a pas de verre, la patte juste là où il n'y a rien du tout, il marche avec circonspection, il marche avec prudence, il fait attention où il met ses pattes, il fait très attention, c'est ça, marche avec circonspection. C'est veiller à notre façon de marcher. Veillez là où nous allons. Veillez là où nous regardons, ce que nous regardons. Beaucoup pêchent par leur regard. Maintenant que tu es chrétien, tu dois veiller à ton regard. Beaucoup ont péché parce qu'ils entendaient. Tu dois veiller maintenant. Comme ce petit chat qui marche sur ce mur plein d'obstacles et de dangers. Au sein des dangers de ce monde, où il y a des rocailles, où il y a des verres brisés, où nous pouvons facilement être meurtris, tailladés. Nous devons veiller. Avez-vous remarqué des soldats qui déminent un endroit plein de mines? Est-ce que vous croyez qu'ils courent comme ça là-bas dedans, dans un champ de mines? Vous avez vu ça? Comment est-ce qu'il fait le soldat quand il sait qu'il y a des mines là? Ils ont l'appareil. Ils marchent avec circonspection. Ce monde est rempli de pièges, n'est-ce pas vrai? Nous sommes comme sur un terrain miné. Nous devons faire attention, tu dois faire attention. C'est ce que l'apôtre veut dire ici. Ne soyons pas comme des... Comment il est dit? Ne soyez pas comme des insensés, mais comme des sages, car les jours sont mauvais. Mes amis, ne pensez pas que vous êtes meilleur qu'un autre. Si tu es trop imbu de toi-même et trop confiant en toi-même, tu tomberas. Tu seras blessé profondément. Tu dois veiller.
Ne dis pas moi maintenant que je suis chrétien, moi. Comment ? Tu peux aller comme ça ? Sur un terrain où il y a plein de mines, ou marcher comme ça, moi je sais où je peux marcher, moi. Vous voyez ? Tu peux éviter une ou deux mines au début, mais tu exploseras tout à l'heure.
Ce sera ta chute.
Nous devons marcher avec circonspection, avec prudence, et ne pas tenter Dieu. Et dire, Seigneur, je veux marcher dans l'humilité devant toi. Je veux veiller à mes pensées, à mon regard, à mes oreilles, à mes lèvres. Certains ont un langage grossier. Il faut purifier ce langage grossier. Un langage méchant. Dieu veut purifier ce langage. Tes actions, Dieu veut changer tout cela. Les jours sont mauvais. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, veille sur ta vie. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Le texte dit « qui se laissera dévorer ». Parce que le diable, il ne peut pas nous dévorer comme ça, vous êtes d'accord avec moi ? Non, non, il ne peut pas, il ne peut rien faire. Mais si tu te laisses, ceux qui se laissent dévorer, ils font n'importe quoi si tu fais des choses de la chair et qui déshonore Dieu, alors tu te places sous les attaques du malin. Mais sois sobre, veille et prie, marche dans la sagesse, la prudence, comme ce petit chat. Les dangers sont là, mais tu passeras, Dieu te gardera. Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre côté, de l'autre côté du lac. Il a dit, passons. Il y a eu une tempête, une grande tempête. Les disciples ont dit, Maître, nous périssons. Mais Jésus avait dit, passons. Il n'a pas dit, nous allons plonger. Il a dit, nous passerons. Peu importe la tempête, peu importe les vagues. Il a dit, nous passons, passons. Regarde à Jésus. Il a dit, passons. Même si tu es dans cette mer de Galilée, où la mer est en train de te balloter, les vents soufflent sur toi, tu passeras. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Et il nous attend là-bas. Il t'attend. Sois fidèle, persévérant, prudent. Et c'est ainsi que tu marcheras d'une manière qui le glorifie. Amen.